Chapitre 11. Au commencement, l'idée vint à Nicolas d'éteindre les petites dettes qui entravaient ses mouvements et le mettaient à tout moment dans des postures désagréables. Mais lorsque le mois en retard de l'hôtel et la note de la crèmerie furent réglés, la somme prêtée par Charles s'en trouva tellement diminuée que les Aftalions, comme s'ils se fussent entendus, ne reparlèrent plus de cette intention. Pendant une semaine, ils sortirent chaque soir, se rendant tantôt au cinéma, tantôt avenue des Champs-Élysées, ou à une terrasse, ils prenaient des glaces. Alors qu'auparavant, ils n'osaient se montrer de peur de rencontrer quelques créanciers, ils étaient à présent pleins d'assurance. Le sentiment de pouvoir se déplacer librement, entrer dans les magasins sans honte, les enivrait. Des plans d'avenir s'ébauchaient dans leur esprit. Ils avaient complètement perdu de vue leur véritable état. L'existence qui, quelques jours avant, leur était apparue sinistre, leur offrait maintenant toutes ses joies. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» demandait Louise chaque matin. « Un tour sur les boulevards ?» L'idée que pourtant ils allaient de nouveau se trouver d'ici peu sans argent se mouvait bien dans leur cerveau. Mais c'était à la manière d'un ver sur la vase, qu'ignore l'eau étincelante, les herbes fraîches penchées sur elle, le soleil dansant d'une vaguelette à l'autre. « L'argent attire l'argent !» répétaient la mère et le fils. Ce proverbe les emplissait de confiance. « C'est toujours comme cela dans la vie. Quand on n'a besoin de rien, tout vous tombe du ciel. » Ils s'imaginaient que les mauvais moments étaient passés, qu'à partir de ce jour, par un moyen ou un autre, ils seraient toujours fournis. Aussi commençaient-ils déjà à s'exprimer à la façon des gens aisés. Cette insouciance dura une huitaine de jours. C'était une trêve. À force d'avoir souffert de ne pouvoir satisfaire aucun de leurs plus petits désirs, quelques jours de largesse leur apparaissaient comme un enchantement. Ils éprouvaient une telle joie à laisser traîner de la monnaie sur les meubles de leur chambre, à ne plus compter ce qu'ils dépensaient, à faire figure de prodigues dans ce même monde qui les avait vus gênés, que lorsqu'il ne resta presque plus rien des 2000 francs prêtés par Charles, ils se refusèrent à s'en émouvoir. « Demain, nous retrouverons de l'argent, » dirent-ils. « Il n'y a pas de raison que nous n'en trouvions pas. » La dernière fois que Nicolas avait vu Simone, il lui avait fixé rendez-vous pour le dimanche suivant, aux abords de la place Clichy. Elle l'attendait depuis une quinzaine de minutes lorsqu'il arriva. « Je croyais que vous aviez dit 3 heures, » observa-t-elle. « Il est 3 heures, » fit Nicolas en désignant une horloge qui marquait 3 heures un quart. « Vous êtes aveugle. Je vous assure que je vois 3 heures. » Quand il était de bonne humeur, il prenait plaisir à nier l'évidence. Cela le soulageait. Il éprouvait comme un délassement à soutenir le contraire de tout. Cela lui arrivait particulièrement souvent pour les couleurs. « Je te dis que c'est rouge !» affirmait un camarade quelconque. « Et moi, je te dis que c'est vert !»« Tu es daltonien !»« Pas du tout, c'est toi qui es daltonien !» Un jour, sa mère lui avait demandé de chercher une adresse dans le Beautin. « Qu'est-ce que c'est qu'un Beautin ? » avait-il demandé. « Ne fais pas l'imbécile !» « Je t'affirme que je ne sais pas ce que c'est qu'un Beautin. Tu te moques de moi ?»« Pas du tout. Jure-le-moi. Je te le jure. Et tu peux jurer cela ?» Finalement, il avouait en riant. « C'était pour te taquiner. »« Mais tu as juré, puisque je t'avoue tout. »« Que faisons-nous cet après-midi ?» demanda Simone. « Je ne vois pas. »« Vous n'avez jamais d'idée. » « Vous, vous en avez beaucoup. Je ne dis pas cela. Mais vous ne dites pas le contraire. Quel drôle de caractère vous avez !»« J'ai un caractère comme tout le monde. Dites-moi ce que nous allons faire. Ce que vous voudrez. C'est à vous de me le dire. Marchons toujours, on verra après. » Simone et Nicolas prirent le boulevard des Batignolles. Dans la nuit, il avait plu. Toutes les feuilles trop précoces du printemps et déjà mortes en cette fin d'août gisaient sur le sol, déridées par la pluie. Des nuages cotonneux couraient dans le ciel d'un bleu pur. Ce dimanche laissait pressentir l'automne. Ils s'arrêtèrent devant un cinéma. « On entre ?» demanda Simone. « Non !» fit Nicolas en traînant le plus qu'il était possible sur cette syllabe. « Alors, marchons un peu. » Nicolas poursuivait un but. Il voulait que la jeune fille l'invitât chez elle. N'osant le lui demander, il attendait qu'elle le fît de sa propre initiative. Aussi affectait-il d'être désœuvré et là, au point que rien ne pouvait le distraire. Simone avait senti ce désir chez Nicolas. Elle, qui, d'habitude, ne proposait aucun divertissement, elle ne s'arrêta plus tout d'un coup d'en énumérer. Un autobus passait-il qu'elle disait « Prenons-le et allons jusqu'au bout ». Apercevait-elle un grand café qu'elle suggérait de s'y asseoir pour écouter la musique. À un moment, leurs regards se rencontrèrent. Nicolas sourit de manière à faire comprendre sa pensée. Simone se défendit alors de sourire et, détournant les yeux, elle prononça les premiers mots qui lui traversèrent la tête. « Allons au jardin d'acclimatation !» Nicolas eut un geste d'homme accablé. « C'est mort ! On fera une promenade sur des chameaux. Ce n'est pas très drôle. Vous ne voulez donc aller nulle part ?»«
Si !»«
Où ? » demanda-t-elle avec une expression changée, comme si tout à coup elle avait deviné le désir de Nicolas.
« Je ne sais pas. Vous venez de dire que vous saviez. J'ai oublié. Vous n'êtes pas gentil aujourd'hui. »
Après s'être assuré que personne ne venait derrière eux, Nicolas serra la jeune fille par la taille et dit avec une moue
« Mais si, je suis gentil.
Vous dites que vous m'aimez, mais vous ne m'aimez pas.
Ta ta ta.
Je parle sérieusement. » À cette seconde, Nicolas eut conscience que si un autre homme l'avait entendu, il eût rougi.
« Que c'est bête, ce ta-ta-ta ! Elle va me prendre pour un imbécile » pensa-t-il.
Il regarda Simone. Elle parut à Nicolas si semblable qu'avant, si prête à écouter d'autres paroles aussi bêtes, sans manifester le moindre étonnement, qu'il imagina une intimité où tout était permis, où les phrases sont dépourvues de sens, les gestes désordonnés, où les larmes succèdent aux éclats de rire, l'intimité, enfin, de sa propre chair.
« Mais si, je vous aime, la preuve, c'est que je suis là. »
Il sentit que ce n'était pas une raison, mais il éprouvait un certain plaisir à citer comme preuve de son amour un fait qui n'en était pas une. Il attendit que Simone s'en aperçût, et de l'entendre naïvement répondre
« Oui, c'est vrai !»
le toucha si profondément qu'il voulut, cette fois, donner des preuves réelles.
« Je pense à vous tout le temps. Quand je m'endors, je m'imagine que vous êtes près de moi. C'est que je vous aime. Et tenez, quand je m'éveille, ma première pensée est à vous. »
Chaque fois qu'il voulait donner l'illusion d'une grande sincérité, il se servait de ce dernier argument. Aussi en usait-il à tout moment. Au temps où son père suppliait de travailler, il répondait
« Mais oui !» La preuve, c'est que, quand je m'éveille, je pense immédiatement à mes leçons.
Ou bien, lorsque sa mère lui reprochait de ne pas songer à son avenir,
« Tu te trompes, maman. Dès que je m'éveille, il se présente à moi tout de suite. »
« C'est vrai, vous pensez tout de suite à moi en vous éveillant ?»«
Tout de suite. »
« Comme c'est drôle. Figurez-vous que moi aussi. Avant même que j'ouvre les yeux, vous êtes déjà dans mon esprit. » Prétextant la fatigue, Nicolas s'arrêta.
« Il faudrait savoir où on va, » dit-il.
« On se promène. »
« Mais tout le monde se promène aujourd'hui.
C'est justement pour cela qu'il faut se promener. » À ces mots, Nicolas sentit combien éloigné de lui était Simone. Son éducation l'avait amené à vivre à l'écart, à faire le contraire d'autrui. Aussi, la jeune femme qui aimait à se promener le dimanche, qui devait aller au théâtre le samedi soir, considérée le lundi comme une journée triste, lui parut-elle un instant comme une étrangère.
« Promenons-nous si vous voulez, » dit-il.
200 mètres plus loin, il s'arrêta de nouveau et, simulant l'étonnement, observa
« Mais il me semble que nous sommes dans votre rue. »
En effet, il s'était arrangé pour conduire Simone vers les derniers numéros de la rue Legendre. Elle leva la tête.
« Vous avez raison !» « Je ne savais pas qu'elle était si longue. »«
Vous habitez tout près ?»«
Non, c'est encore loin. »
Tous deux se trouvaient à proximité d'un petit square, à demi suspendu au-dessus des lignes de la gare Saint-Lazare. Nicolas fixa ses yeux dans ceux de Simone. Elle baissa la tête, il la serra contre lui et l'embrassa.
« Qu'est-ce que vous avez tout à coup, Nicolas ?»«
Allons là-bas, nous serions si bien l'un à côté de l'autre. »
« Non, non, je ne veux pas !» Nous nous connaissons bien maintenant.
Oui, mais je ne veux pas.
Pourquoi ?
Non, je vous assure que non.
Simone tremblait. Elle qui, d'ordinaire, se tenait droite, elle courbait le dos. Ses yeux imploraient Nicolas. Soudain, montrant du doigt le petit jardin, elle dit en se forçant de sourire
« Regardez comme c'est joli, toutes ces feuilles. Et les petites fleurs, là, vous les voyez ? Penchez-vous. »
Nicolas obéit. Devant cette pauvre nature, il était aussi insensible que devant un mur.
« Nous allons nous asseoir dans ce jardin. Venez, Nicolas, vous verrez comme c'est amusant. C'est là que maman me conduisait quand j'étais petite. »
Simone se grisait de ses paroles. Pour un rien, elle faisait de grands gestes. Une auto passait-elle qu'elle reculait jusqu'à la grille du square. Frôlait-elle du pied Nicolas qu'elle baissait la tête pour regarder où elle l'avait touché.
« Faites-moi plaisir, Nicolas !»
Elle le prit par la main. Il se laissa entraîner.
« Vous ne voulez pas que nous nous asseyions sur un banc ?»«
J'aimerais mieux autre chose.
Quoi ?»
Ses yeux agrandis, sa bouche entr'ouverte, donnaient à son visage une expression à la fois soumise et inquiète. Ses doigts remuaient nerveusement, dans un mouvement régulier de va-et-vient, ainsi qu'une machine bizarre.
« Simone, soyez gentille !»« Mais dans le jardin !»«
Nous irons une autre fois !» Sa gorge se serra. Elle essaya de rire.
« Vous me dites cela, mais vous ne le pensez pas !»
« Je vous jure que nous irons une autre fois. »«
Quand ?»«
Quand vous voudrez. » Elle était complètement changée. Nicolas voulut la serrer encore contre lui. Elle fit quelques pas en courant, comme les bêtes qui franchissent une porte, et éclata d'un rire nerveux. Les bras le long du corps, le menton en avant, le visage soudain tiré, elle attendit que Nicolas s'approchât d'elle. Lorsqu'il fut sur le point de la saisir, de nouveau, elle se sauva.
« Vous ne m'attraperez pas !»
Pour la tromper, Nicolas eut un geste d'impuissance. Puis il s'élança tout à coup vers elle. Elle recula instinctivement d'un pas, tendit les mains en avant et, un instant après, se trouva prisonnière dans ses bras.
« Vous voyez que je vous ai attrapé !»« Lâchez-moi ! Lâchez-moi, je vous dis !»
Nicolas obéit sur le champ. Surprise, elle le regarda.
« Qu'est-ce que vous avez ?»
Rien, c'est vous qui n'êtes pas gentille.
Si, je suis gentille. Tenez.
Elle s'approcha de lui, lui prit les mains et fixa son regard dans le sien.
Je ne suis pas gentille.
Pourquoi ne voulez-vous pas que nous allions chez vous?
Non, je ne veux pas.
Nicolas se dégagea. Eh bien, allons dans ce jardin. Quoiqu'il eût senti que Nicolas lui gardait rancune de son refus, elle s'appliqua à paraître ne point remarquer sa mauvaise humeur et manifesta une joie délirante qui, sincère d'une part, visait d'autre part à le désarmer.
« Comme je suis heureuse! Vous êtes le meilleur! Je vous aime mille fois! Venez! Allons! Mon Dieu, que cela va être drôle !»
Nicolas gardait un visage sévère. Comme si de rien n'était, elle continua.
« Nous irons nous asseoir près de la statue. Là, nous pourrons parler longtemps. » « Personne ne nous dérangera. Souriez donc, Nicolas, souriez !»
Il ne répondit pas.
« Vous êtes fâché ?»«
Non. »«
Alors, qu'est-ce que vous avez ?»«
Rien. » La joie de Simone s'évanouit. Elle voulut rire, mais elle n'y parvint pas. Comme elle s'apprêtait à parler, elle sentit autour de sa taille le bras de Nicolas. Il l'entraîna. Tant de pensées se présentèrent à son esprit qu'elle ne sut quoi dire. Elle le suivit, bouleversée. Par moments, elle se raidissait, puis s'abandonnait, en s'étonnant que Nicolas ne s'aperçût pas de la violence de ses impressions. Elle sentit son regard descendre vers elle, mais n'osa se tourner. Soudain, tout ce qu'elle eût pu dire lui parut inutile. Quelques secondes durant, elle entendit le bruit de ses pas à lui, qu'elle reconnaissait des siens sur le sol, puis elle eut nettement conscience qu'elle s'était laissée entraîner trop loin, et qu'elle ne pouvait plus se défendre.